Notre Père, notre Dieu, voici le moment où nous allons rentrer dans l'étude de ta parole. Alors que nous allons méditer ce matin sur comment la prière est importante, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous diriger par ta puissance. Et surtout, prépare nos cœurs. Car nous ne voulons pas, Seigneur, manquer à cette parole ce matin. Que ta parole brûle en nous et qu'ainsi, Seigneur, à la fin de ce message, à la fin de ce moment, nous puissions retourner à la maison et comprendre le besoin de la prière dans notre vie. S'il te plaît, dirige celui qui parle en cet instant. Donne-lui la force, donne-lui la sagesse, l'intelligence et surtout dirige ses paroles afin que ce soit des paroles qui construisent la spiritualité de ton peuple et non la détruire. Sois avec ma bouche, mes pensées, au nom de Jésus. Amen. Alors que nous avons vu cette semaine plusieurs choses, comme j'ai dit auparavant, nous avons même passé par un modèle de la prière, c'est-à-dire à travers le sanctuaire. Et hier, dernière soirée au centre, on a vu quelque chose d'autre, c'est-à-dire prière et la foi, c'est-à-dire compter sur la parole de Dieu, compter sur les promesses de Dieu. Et lorsque Dieu parle, il est toujours disposé à accomplir ce qu'il a promis. Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14. Le verset 32, à partir du verset 32. Amen. OK. Il nous dit ceci. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors que Jésus sentait que son temps allait être fini, le temps qu'il était pour passer sur la terre et que les prophéties ont annoncé X temps de cela va être accompli, il sent le besoin de passer du temps avec ses disciples. Ils vont prendre une chambre haute, ils vont manger ensemble, ils vont partager ensemble. Et puis la Bible dit qu'ils vont chanter quelques cantiques et après ça, ils vont partir tous au jardin de Gethsémané. Voilà que, arrivant à Gethsémané, Jésus parle à ses disciples et il demande à certains de ses disciples de rester ici, sauf Pierre, Jacques et Jean, d'être avec lui un peu plus loin dans le jardin. Et la Bible dit qu'il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis il s'éloigna et allait passer un moment dans la prière. Et sa prière était simple, était une prière courte et simple. « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Nous voyons ici qu'il y a une situation qui arrive. Nous voyons que Jésus, ici, son âme est attristée et qu'il demande la prière de ses disciples. Il demande la prière de ses amis. Et l'esprit de prophétie nous dit ceci, de ce qu'il aurait désiré de voir que ses disciples priaient pour lui et priaient pour eux-mêmes. Mais malheureusement, lorsque nous regardons plus loin, nous allons voir que les disciples faisaient quoi? Ils dormaient. J'aimerais juste m'arrêter pour ouvrir une parenthèse et puis continuer avec ça. avec le point que j'allais. Lorsque quelqu'un nous demande de prier pour lui, que faisons-nous? Ce que je suis en train de dire, Jésus lui-même demande à ses disciples de prier pour lui et ses disciples allaient et s'endormaient dans le jardin. Mais lorsque nos amis nous demandent de prier pour eux, quelqu'un à l'église nous demande de prier pour eux, notre membre de famille nous demande de prier pour eux, que faisons-nous? Est-ce que nous prenons à cœur cette demande? Ou bien c'est juste une demande et puis je m'en vais à la maison, j'ai sommeil, je vais dormir. Je ferme la parenthèse, je vais revenir sur quelque chose comme ça après. Mais mon point ici, c'est la prière de Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si je vous pose une question, est-ce que la prière de Jésus a été exaucée? Que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que sa prière a été exaucée? Oui et non. Oui et non. OK? Oui, ça a été exaucé parce que Dieu a fait sa volonté. Non, c'est parce que la coupe qu'il demandait à être éloignée n'a pas été éloignée. OK? Donc, cela veut dire que est-ce que Dieu ne répond pas aux prières? Non, il répond aux prières, mais selon sa volonté. Exactement, sa volonté. Nous sommes tous ensemble pour le moment. Mais lorsque nous regardons, chers amis, lorsque nous demandons la volonté de Dieu, sommes-nous réellement en attente de sa volonté ou de ma volonté? Le problème, c'est que des fois, nous demandons là que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans notre vie, mais nous espérons que c'est notre volonté qui arrive. Et si Dieu change les plans, on est des fois frustré, on est des fois pas content parce que Dieu a changé nos plans pour ses plans. Mais nous avons demandé sa volonté. Et le problème, c'est que des fois, juste pour avoir des mots à dire de plus dans nos prières, nous faisons une grande prière et nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais réellement, attendons-nous à ce que la volonté soit faite dans notre vie. Attendons-nous que sa volonté soit faite dans notre vie. Chers amis, il est plus facile d'accepter que la volonté de Dieu soit faite dans la vie des autres que dans notre propre vie. Lorsque nous voyons les gens agir d'une façon particulière et que Dieu répond à la prière, « Oh, c'est la volonté de Dieu, on doit juste l'accepter. » Mais quand ça touche notre propre vie, nos amis, notre famille ou bien même nos enfants, là c'est différent. Que se passerait-il si on a quelqu'un que nous aimons, notre mère, notre père, nos frères et sœurs, ou bien même nos enfants, sur le lit d'hôpital et que vous regardez de loin le docteur qui regarde le papier et qui bouge sa tête comme s'il n'y a rien, plus rien à faire? Demanderez-vous toujours sa volonté? Serions-nous capables de dire que ta volonté soit faite dans cette situation? Que ta volonté soit faite, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de très important. Comme nous l'avons vu durant cette semaine, pensez à ce que vous demandez. Nous avons vu ça cette semaine, n'est-ce pas? Ne demandez pas des choses juste pour le plaisir de demander, mais réfléchissons à ce que nous demandons dans la prière et attendons-nous de ce que Dieu va l'accomplir. Que ta volonté soit faite. Maintenant, lorsque nous regardons cette histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémané, nous voyons de ce que Dieu a répondu à sa prière en faisant sa volonté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de ne pas éloigner cette coupe de lui, mais qu'il devait prendre la coupe. Maintenant, Peut-on supposer que si nous demandons la volonté de Dieu, si nous sommes dans un moment de difficulté, nous sommes dans une situation difficile, nous sommes dans des problèmes où nous ne pouvons pas voir une solution de loin, et que nous demandons Dieu de retirer cela dans notre vie ou bien d'éloigner cela dans notre vie et que Dieu décide de ne pas le faire, que faisons-nous? Jésus a demandé que cette coupe s'éloigne de lui. Et Dieu, dans son plan, c'était que Jésus boive cette coupe. Accepter cette coupe. Prendre la coupe. Où est-ce que je suis en train d'aller avec? C'est que ce que nous avons vu hier par rapport à la foi et de faire confiance à Dieu, si Dieu décide de vous laisser prendre la coupe, est-ce que nous pouvons dire que Dieu n'a pas écouté notre prière? Ou bien c'est parce qu'il a écouté notre prière et que cette coupe, nous devons la prendre parce que ça va nous servir après? Posons-nous la question. Le fait que Jésus a pris cette coupe et a passé par toutes ces épreuves et pour même mourir et d'avoir été battu et par la suite ressuscité, qu'est-ce que cela a apporté à l'humanité? Le fait que Jésus a pris cette coupe, qu'est-ce que cela a apporté à l'humanité? Le salut éternel, pas seulement le salut, cela a réglé aussi le problème que Satan a soulevé dans le ciel, en accusant Dieu d'être un Dieu arbitraire. Et par la suite, cela emmène aussi la condamnation éternelle de l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi des âmes. Donc cela a réglé plusieurs choses lorsque Jésus a pris cette coupe, n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes en train de prendre la coupe, est-ce que pensez-vous que ça va régler beaucoup de choses aussi dans notre vie? Pensez-vous que ça va changer notre caractère? Est-ce que pensez-vous que cela va nous aider à voir les autres d'une autre façon lorsque eux, ils passent par cette situation? Pensez-vous que cela aussi va aider quelqu'un d'autre lorsque eux aussi, ils traversent les mêmes moments que nous? Le Seigneur permet de ce que nous passons par ces moments pour que nous puissions être un témoin pour ceux et celles qui se trouvent dans la même situation que nous après. Être une lumière pour briller là où nous sommes. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que là où vous travaillez, là où vous êtes, lorsque vous mentionnez de ce que vous êtes chrétien ou bien adventiste du septième jour, les yeux de tout le monde est braqué sur vous. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation difficile, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie et qui nous atteint directement, les gens regardent de quelle façon nous réagissons dans ce problème. Et lorsqu'ils regardent, ce n'est pas seulement juste pour regarder, mais il regarde que vous qui dites que vous êtes chrétien, montre-moi maintenant comment tu traverses ce moment. Est-ce que ça va être la même chose que moi? Si c'est la même chose que moi, donc c'est pas la peine de devenir chrétien. Pourquoi être chrétien et souffrir la même souffrance et réagir à la même façon que de ne pas être chrétien? Lorsque nous sommes en train d'accepter la volonté de Dieu, pensez à une chose, c'est que cela est une opportunité pour nous de rendre témoignage et de glorifier Dieu. Et deuxièmement, cela permet de faire à ce que les autres puissent voir comment un chrétien, quelqu'un peut traverser une situation difficile avec Dieu. J'ai déjà raconté ici l'histoire, la différence entre ceux qui sont païens et ceux qui sont chrétiens. Parce que si vous allez à l'enterrement ou aux funérailles de quelqu'un qui est païen, vous allez voir cette différence. Parce que pour eux, l'espérance n'est pas là, n'est pas présente dans leur croyance. Parce que pour eux, c'est fini. Par exemple, mon épouse est d'origine hindoue. Lorsque quelqu'un est mort et que par la suite, leur espérance, c'est qu'il va avoir une meilleure vie dans la vie d'un animal. Vous pouvez le demander, hein? Mais c'est ça leur espérance, parce que pour eux, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Donc, l'animal, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il va être, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Mais lorsqu'on regarde un chrétien et que nous avons la bienheureuse espérance, est-ce que c'est différent? C'est très différent parce que si nous mourons en Christ, nous ressusciterons en Christ, n'est-ce pas? C'est une grande espérance. Et le fait de passer par cette situation, cela nous donne l'assurance de ce qu'il y a quelque chose qui arrive après. C'est la bienheureuse espérance. Lorsque Jésus a demandé cette volonté, que Dieu, que son Père fasse sa volonté dans sa vie, et voilà que maintenant Jésus a fini de prier, il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Le verset 37, Marc le chapitre 14. Le verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? N'as-tu pas veillé une heure? » Lorsque Jésus revenait de sa prière, il s'attendait à ce que de voir ses disciples en train de prier pour lui. Il s'attendait de voir ces gens qui plaidaient avec Dieu ou bien qui suppliaient Dieu pour Jésus et pour eux-mêmes, afin qu'ils puissent traverser ces moments difficiles. D'ailleurs, lorsque nous lisons un peu plus haut, nous allons voir que Jésus va dire à ses disciples, vous savez quoi? Ceci va se passer, ceci va se passer, ceci va se passer, et que maintenant, priez, veillez et priez à ce que vous ne soyez pas offensés durant cette nuit. Mais il arrive et il voit ses disciples en train de dormir. Ses disciples en train de dormir. Des fois, je me pose la question. Lorsque Jésus a vu ses disciples et que il a annoncé d'avance ce qu'il allait arriver, et que maintenant il arrive, il voit ses disciples en train de dormir, ne sommes-nous pas en train de faire la même chose? Alors que Dieu nous a prédit beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui devant nos yeux. Toutes les calamités se multiplient les uns après les autres. Les gens deviennent de plus en plus insensibles. Et lorsque nous voyons tout cela, je me pose la question, qu'est-ce que le chrétien est en train de faire? Qu'est-ce que nous faisons, chers amis? Que faisons-nous à Gethsémani? Prier ou bien en train de dormir? Regardez avec moi un texte, Jonas le chapitre 1er. Jonas, le chapitre 1er. J'aimerais vous montrer quelque chose. Le verset, chapitre 1er, le verset, à partir du verset 4. Jonas, c'est juste après Amos. Amos, c'est juste après Joël. Joël, c'est juste après Daniel. OK? Jonas, le chapitre 1er, à partir du verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Intéressant, n'est-ce pas? Nous voyons un enfant de Dieu sur un navire païen. Il y a une grosse tempête que le navire est en train d'aller vers un naufrage certain. Les païens prient, l'enfant de Dieu dort. Serait-il possible de dire que alors que la tempête fait rage à l'extérieur, la tempête est en train de faire rage, les enfants de Dieu sont en train de dormir sans avoir conscience ce qui se passe autour de nous. Il arrive quelquefois que nous sommes déconnectés avec l'actualité, que le problème, c'est que nous ne voyons pas l'importance de passer du temps en prière. Nous sommes déconnectés avec la situation dans laquelle les autres se trouvent, que nous ne trouvons pas l'importance de prier pour ces gens ou même prier pour le salut de ces personnes. Il est désolant de voir de ce que les païens doivent demander à un enfant de Dieu de prier pour cette situation. Désolant de voir de ce qu'un enfant de Dieu qui connaît la vérité, qui connaît le vrai Dieu, mais qui n'applique pas dans sa vie, qui ne recherche pas son Dieu dans les moments difficiles. Vous voulez voir les païens vous demander ceci? Regardez autour de vous. Plusieurs religions sont en train de faire des choses pour je ne sais pas, ils essaient de faire quelque chose pour passer du temps en prière. Je sais qu'à l'île Maurice, je ne connais pas trop ici, mais je sais qu'à l'île Maurice, les hindous passent beaucoup de temps en prière, des soirées, des nuits, juste pour prier. Je me pose la question, qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Que sommes-nous en train de faire lorsque nous regardons autour de nous, chers amis? Que faisons-nous à Gethsémané? Que faisons-nous? Il y a une autre chose. Vous savez que, je vous ai dit pendant la semaine, les questions de Jésus sont très importantes, n'est-ce pas? Et méritent une réflexion. Jésus va dire dans le verset 37, Marc, le chapitre 14, verset 37. Il dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, n'as-tu pas veillé une heure? » Combien de temps le Seigneur a demandé aux disciples de prier pour eux, pour lui? Une heure. Et une heure, les disciples se sont endormis. Pourquoi cette question? Pourquoi demande-t-il à Pierre, « N'as-tu pas pu passer une heure avec moi en prière? » Allons ensemble dans Luc, le chapitre 5. Luc, le chapitre 5. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Voici ce qui se passe ici. Pierre est disposé à passer toute une nuit à pêcher. Une heure dans la prière, il ronfle. Toute une nuit, il passe à pêcher. Le Seigneur demande une heure et on dort. La question est, nous avons vu ça aussi cette semaine, quelle est notre priorité? N'allons pas plus loin, regardons nous-mêmes. Que serions-nous prêts à faire? À avoir une soirée game night ou bien passer une soirée en prière? Vous voulez faire l'expérience? Demandez à l'église de faire une soirée game night et une soirée en prière. Vous allez voir combien de personnes va venir. Cela vous fait rire. Mais cela est triste aussi de voir de ce que les gens sont plus habitués à des choses qui nous amusent que de passer du temps en prière et à rechercher Dieu pour nous-mêmes. Nous pouvons passer une nuit à faire des choses, mais une heure dans la prière, nous ne pouvons pas. Je ne suis pas en train de dire de rester à genoux pendant une heure de temps. Mais ce que je suis en train de dire, c'est passer une heure avec Dieu. De rechercher sa volonté, de revoir ce qu'il nous a dit, de repenser à ce qu'il nous a prédit, de prier sur la façon dont nous sommes appelés à être, à agir, et de prier pour notre caractère, pour un changement de cœur. Combien de temps passons-nous en prière pour cela? 5 minutes par jour? Et le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que nous voulons un changement tout de suite, rapide. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas passer plus de temps en prière. Chers amis, où est notre priorité? Quelle est notre priorité? Pourquoi parlons-nous de la prière ce matin? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe après. Le verset 50, Marc 14. Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14, le verset 50. Le verset 50 nous dit, alors que Judas est arrivé, les soldats sont arrivés et ils ont pris Jésus. Et après cela, la Bible nous dit, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent. » Voici la question que je vous propose ce matin. Qui a prié? Qui s'est endormi? Qui est resté ferme? Qui a pris la fuite? Est-ce que mon mathématique est difficile à comprendre? Ce qui veut dire que passer du temps en prière nous permet de rester fort, d'être ferme. Il y a une citation ou un dicton qui dit « Pour être debout devant les hommes, il faut être à genoux devant le Seigneur avant. » Comment pouvons-nous passer à travers la situation, à travers nos difficultés, passer à travers tous ces obstacles si nous passons seulement 5 minutes en prière chaque jour? Nous pouvons commencer à passer par 5 minutes. Nous pouvons commencer par 5 minutes. Et puis, lorsque ce désir de prier viendra, cela va augmenter par elle-même. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez à la maison tout de suite et vous passez une heure en prière. Non. Commencez doucement. Lorsque vous vous entraînez, n'est-ce pas, footballeur? Lorsqu'on s'entraîne, on commence petit à petit. On commence 10 minutes, 30 minutes, et puis on peut s'entraîner après une heure, deux heures, parce que notre corps est déjà habitué avec. La prière, c'est la même chose. Lorsque nous commençons, commençons peu. Et lorsque le désir va commencer à grandir dans notre cœur, vous allez passer du temps en prière et que lorsque vous allez vous mettre debout, vous allez dire, « Quoi? J'ai fait tout ce temps. Mais qu'est-ce que j'ai dit? » Ce désir grandit petit à petit. Petit à petit. Vous voyez pourquoi il est important de passer du temps en prière? C'est parce que Dieu nous a déjà préparés pour le temps de la faim. Et le problème, c'est que qu'allons-nous faire dans ce temps? Allons-nous prendre la fuite ou bien allons-nous rester fermes dans ce que nous croyons? La prière nous permet de rester fermes. La prière nous permet d'avoir foi en Dieu de ce qu'il nous a promis, de ce que nous allons traverser cette situation victorieux. Pour terminer, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que nous faisons, chers amis? Est-ce que nous sommes satisfaits de notre vie de prière? Est-ce que notre vie de prière est une vie de prière qui est vraiment, vraiment, vraiment réelle avec Dieu? Est-ce que notre vie de prière est celle qui, lorsque je vais au travail, les autres peuvent dire, c'est quelqu'un qui a passé du temps avec quelqu'un d'autre. L'esprit de prophétie dit ceci. Il est très important de passer du temps en prière. Je suis en train de paraphraser, OK? Il est très important de passer du temps en prière. Lorsque nous avons eu une conversation réelle, vraiment profonde avec Dieu, et lorsque nous sortons de ce lieu, lorsque nous rencontrons les gens, et nous pouvons parler avec eux, ils vont ressentir une atmosphère du ciel dans notre vie. Chers amis, même si Dieu décide de ne pas enlever la coupe, même si Dieu décide que nous devons passer par là, continuons à prier. Continuons à passer du temps en prière. Lorsque nous voyons des choses qui se passent autour de nous, dans notre famille, dans la société, ou bien même au niveau de l'Église, il y a une chose que j'aimerais vous demander, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez des choses passer à l'Église, ne passez pas du temps à parler de cela. Mettez-vous à genoux et priez, implorez le Seigneur. Nous passons plus de temps à parler que de prier. Nous passons des heures à parler sur X, Y, Z ou bien même le prédicateur ou le pasteur. Mais nous passons juste 5 minutes à prier pour ces gens-là. Vous voulez développer une vie de prière? Commencez à prier pour ce qui, pour les gens que vous n'aimez pas. Commencez à prier pour votre Église. Pour les gens qui sont autour de vous. Cela développerait un amour pour les gens que nous n'aimons pas. Cela va développer un amour pour notre Église. Ma prière pour chacun d'entre nous cet après-midi, c'est que nous puissions, chers amis, voir l'importance de la prière. La prière est la respiration de l'âme. Ne restez pas sans souffle. Ne restez pas sans respiration. Si vous faites, vous êtes en train de vous suicider directement. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous aide à davantage passer du temps avec lui dans la prière. Alors que nous terminons, j'aimerais vous demander à vous mettre debout et je vais terminer en prière.